est-ce que Ernest Antoine Seyer est la quintessence, est-ce que c'est l'aboutissement, est-ce que c'est le dernier bourgeon donc d'une longue dynastie très variée d'ailleurs qui va s'éteindre ou qui au contraire a de larges chances de dépasser encore une paire de siècles au travers de sa progéniture.
Alors on peut déjà dire que certainement quelque chose reste en travers de la gorge d'Ernest Antoine Seyer. Et ça date de Jean-Joseph de Laborde. En effet, Jean-Joseph de Laborde a eu le tort de pratiquer le trafic d'argent métal à destination de l'Angleterre au moment de la Révolution. Et un certain jour, il s'est retrouvé en face de Fouquier Tinville, qui lui a demandé les comptes. Et les comptes ont été ainsi faits que Jean-Joseph de Laborde a été guillotiné le 18 avril 1794. Donc, nous pouvons imaginer que lorsque Ernest Antoine Seyer pense à cette ligne des Laborde, quelque chose peut le troubler. Ensuite, les Seyer se sont enrichis sur quelque chose qui nous renvoie à l'actualité. Ils se sont enrichis sur une privatisation décidée par le directoire. C'était la privatisation des fournitures aux armées. Et lorsque dans certains livres aujourd'hui, enfin dans un livre qui est sorti il y a quelques mois, Ernest Antoine Seyer aborde cette période, il dit que les Seyer se sont enrichis grâce aux fournitures, aux armées, dit-il, issues de la Révolution. En réalité, l'enrichissement des Seyer est dû surtout aux fournitures dont ont bénéficié d'abord les armées du directoire et puis ensuite les armées napoléoniennes. Pendant le directoire, donc, les Seyer se sont enrichis à millions, de sorte qu'ils ont fait partie du groupe de banquiers et de fournisseurs qui accompagnaient Napoléon Bonaparte au moment du coup d'État du 18 Brumaire. Ensuite, si les Seyer ont pu installer Schneider au Creusot, c'est parce qu'ils ont été les munitionnaires exclusifs en 1830 de l'armée française qui a opéré la prise d'Alger. Donc, il est certain que Ernest Antoine Seyer, pour peu qu'il soit au courant de cette part de l'histoire, et il est au courant, puisque ça se trouve écrit dans des livres qu'il préface, il est donc certain qu'il est lui-même en situation de se poser des questions sur le présent de l'Algérie. Ça pour dire simplement que bien des choses pèsent sur lui. L'analyse que chacun de nous peut en faire différera peut-être, mais je pense que forcément, il y a là quelque chose qui est cruel pour lui comme pour nous, je dirais.
Voilà, donc la carrière des ancêtres rejoint un peu la carrière donc d'Ernest Antoine Seyer. Alors on va peut-être poser la question à Christine Cuny, pour qu'elle nous parle un peu de l'actualité, entre guillemets, l'actualité des Seyer et l'actualité aussi de ces patrons qui passent un peu tous les régimes et qui arrivent à influer à certains moments, je pense, sur la politique et pas seulement sur l'économie.
Donc moi je me suis intéressée à Ernest Antoine Seyer, patron du MEDEF. Mais pour en revenir à lui, il a fallu quand même que je remonte un petit peu le temps, et donc remonter au début, en fait, plus ou moins du patronat. Donc j'ai repris l'histoire, en fait, au moment de Vichy, donc où se sont créés les comités d'organisation, qui étaient plus ou moins les ancêtres du patronat actuel. Hein. Et donc j'ai suivi un petit peu le parcours de tout ce qui a fait le patronat depuis cette date-là jusqu'en 1999. Voilà. Et donc j'ai été frappée de voir qu'il y avait une évolution dans le discours du patronat. Donc que ce soit déjà au départ les comités d'organisation qui déjà participaient avec le gouvernement, donc à l'organisation économique, en fait, puisqu'il devait donc répartir les matières premières, la main d'œuvre, donc en fonction des commandes. Donc il y avait déjà une collaboration avec les hauts fonctionnaires de l'époque. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, on voit bien que cette collaboration continue et qu'elle elle prend même de l'ampleur.
Elle se diversifie peut-être aussi, non? Est-ce que ça ne sort pas du champ purement technique?
Oui, c'est-à-dire qu'au début, donc, le patronat apparaît comme plutôt une organisation de défense d'une branche, d'une catégorie. Et puis, petit à petit, le patronat s'oriente vers un groupe de pression institutionnelle, donc jusqu'à faire pression donc sur les législateurs, donc sur les gens qui se trouvent dans les gouvernements. Hein. D'ailleurs, y a une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que je me suis rendu compte, par exemple, peu de temps avant le coup d'État de 1958, Georges Villiers, donc, qui était un des responsables du CNPF de l'époque, donc, disait déjà qu'il fallait, qu'il n'était pas possible de réformer avec l'économie, enfin, de réformer, de permettre aux entreprises de mieux se développer s'il n'y avait pas de réforme des institutions. Voilà.
Alors quel est l'état du patronat aujourd'hui, pourrait-on dire, puisque si vous avez suivi cette évolution, on peut faire une petite analyse du rôle actuel du patronat et également donc du rôle du MEDEF.
Donc le rôle du MEDEF, c'est de faire pression. Ernest-Antoine Sellière a énormément de relations, comme d'ailleurs tous les présidents, enfin tous les patrons auparavant du CNPF avaient énormément de relations avec les gouvernants. Hein, donc c'est déjà toujours être au contact de l'exécutif pour pouvoir agir au maximum sur lui. Hein. C'est aussi... essayer aussi au niveau, donc il y a ce côté-là, et il y a aussi intervenir au niveau des entreprises. Parce que leur discours aussi, c'est de dire qu'ils sont, comme disait Ernest-Antoine Sellière, le sel de la terre. Hein. Donc l'entrepreneur, c'est le sel de la terre, il est à la source de toutes les richesses, donc tout doit lui être, pratiquement tout doit lui être dû, enfin la société doit être pratiquement à son service. Voilà.
Et comment réagit-il par rapport à la mondialisation? Est-ce que c'est un discours mondialiste en quelque sorte ou archaïque?
Non, c'est-à-dire qu'il est partisan d'une modernisation, mais qui, c'est-à-dire c'est étendre, je dirais, le capitalisme tel qu'il est actuellement à une échelle déjà européenne.
Voilà, donc sortir du capitalisme national pour devenir un capitalisme européen, et puis...
Bon, c'est même, je dirais, international, puisque, bon, il envoie régulièrement des délégations à l'étranger. Donc, ce qui est curieux aussi, c'est que c'est une organisation qui est pratiquement aussi, bon, qui travaille proche des gouvernements, mais qui travaille aussi à part. C'est-à-dire qu'il envoie des délégations à l'étranger, il envoie des délégations de chefs d'entreprise au Congo, en Libye, donc en dehors de toute intervention gouvernementale. Voilà.